Bonjour, bienvenue sur RTL, c'est parti pour Confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour dévoiler la face cachée d'une personnalité. C'est une famille extrêmement secrète et pourtant parmi les plus connues au monde, les Bettencourt. Françoise Bettencourt Meyers, l'héritière du groupe L'Oréal, est la femme la plus riche de la planète, à la tête d'une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros. Un nom désormais indissociable du scandale politico-financier qui a secoué jusqu'aux plus hautes instances de l'État pendant près de 10 ans. Patriarcat, lourd passé, relations mère-fille controversées, engouement sans limite pour un photographe trublion, argent colossal, évasion fiscale, procès, c'est plus qu'une histoire de famille, une véritable saga. Mais que cachent les Bettencourt derrière ce que l'on voit tous? Comment Françoise Meyers parvient-elle à garder, depuis toutes ces années, tant de discrétion sur son quotidien? L'héritage n'est pas si simple à porter, vous allez voir. Confidentiel Bettencourt, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec la grand reporter du Monde et autrice Raphaël Baquet. Elle a réalisé l'une des enquêtes les plus poussées sur la famille à la tête de L'Oréal. On est le 22 novembre 2007 à Neuilly-sur-Seine. L'ancien sénateur André Bettencourt est mort 3 jours plus tôt, il avait 88 ans. Toute la bonne société française est présente à ses obsèques. Bernadette Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, des hommes politiques de premier rang, mais aussi des industriels puissants et des personnalités du monde de la culture. André Bettencourt a été maintes fois ministre, que ce soit sous le général de Gaulle ou sous Georges Pompidou. C'est donc une figure de la Ve République que l'on enterre. Mais pas seulement. Car si son destin a toujours été intrinsèquement lié à celui du pays, c'est aussi beaucoup grâce à sa femme, Liliane Schweller, la fille d'Eugène Schweller, le fondateur de L'Oréal. Depuis la mort d'Eugène, en 1957, Liliane Bettencourt est devenue la femme la plus riche du monde, avec un patrimoine estimé à l'époque à 30 milliards d'euros. Liliane, 85 ans, est là, bien sûr, à l'enterrement de son mari André, tiré à 4 épingles, au premier rang, avec sa famille. À ses côtés, on trouve sa fille, Françoise, et son gendre, Jean-Pierre Meyers, ainsi que leurs 2 enfants, Jean-Victor et Nicolas, 2 jeunes hommes qui incarnent l'avenir. L'avenir de L'Oréal, mais aussi celui de la famille Bettencourt. Les proches du couple Bettencourt se sont installés à côté de la famille, tous ceux qui venaient régulièrement leur rendre visite dans leur superbe hôtel particulier de la rue de la Bordère à Neuilly. 1000 mètres carrés et un jardin si vaste que lorsque l'on franchit les grilles, on a l'impression d'être à la campagne. Les proches, ce sont ceux aussi qui étaient invités pour les vacances dans leur propriété bretonne de l'Arc Ouest, dans celle de Majorque, aux Baléares, ou encore sur leur île privée d'Aros, aux Seychelles, un paradis de sable blanc au milieu d'un lagon bleu azur, décor de rêve absolu, vous l'avez compris. Le personnel des Bettencourt, majordome, femme de chambre, secrétaire, ils sont tous là également à l'arrière de l'église, de même qu'un certain François-Marie Bagné. Bagné, l'artiste iconoclaste, écrivain et photographe, qui est devenu depuis près de 20 ans l'un des plus proches amis du couple Bettencourt. Et plus particulièrement, l'ami de Liliane, qui est extrêmement généreuse avec lui. Elle lui offre régulièrement des tableaux de maître, des appartements et de très, très grosses sommes d'argent. André Bettencourt s'est toujours montré très courtois avec cet homme, avec ce Bagné, un amuseur dont Liliane ne pouvait plus se passer, même s'il n'était pas vraiment d'accord avec les dépenses excessives des 2 complices. Mais après tout, ce n'est pas son argent, c'est la fortune de sa femme. Il y a une autre personne qui, elle, se montre beaucoup, beaucoup plus méfiante envers le photographe. C'est Françoise Bettencourt Meyers, la fille unique du couple Bettencourt. Elle pense que Bagné est un parasite. Dans le privé, elle l'appelle même Raspoutine. Françoise nourrit depuis le début une haine froide envers ce trublion dont sa mère s'est entichée. Une mère avec qui les relations ont toujours été compliquées. Liliane n'a jamais eu la fibre maternelle. Elle s'est toujours montrée distante envers cette petite fille timide, discrète et affectueuse. Enfant, Liliane lui avait même trouvé un surnom, la moule collée au rocher. Françoise grandira loin des fastes que son nom et sa fortune lui confèrent, une enfant solitaire qui préfère son piano et la musique de Bach. Quelque part, secrètement, Françoise est sans doute un peu jalouse de l'intérêt que sa mère porte à l'énergumène Bagné. Lui qui est son exact opposé, extraverti, fantaisiste et mondain. Le jour même de la mort d'André, François-Marie se trouvait là, dans la chambre du défunt, en pleine scène de recueillement familial. Françoise n'en croyait pas ses yeux. Cet intrus, ici, à un moment pareil, si intime, déjà que des rumeurs rapportent qu'il aurait tout fait pour se faire adopter. Eh bien, c'en est trop pour Françoise. Maintenant que son père est parti, elle est bien décidée à reprendre les choses en main. Dans une rare interview donnée au journal Le Monde en 2012, elle reviendra sur ce moment. Quelques mois avant la mort de mon père, nous avons longuement parlé et j'ai compris que j'en savais bien plus que lui. Mais je ne voulais pas le faire souffrir davantage. Il ne s'est pas écoulé plus d'un mois entre la mort de mon père et l'engagement de la procédure judiciaire. Le 19 décembre 2007, donc, un mois jour pour jour après la mort d'André Bettencourt, Françoise, sa fille, porte plainte pour abus de faiblesse contre François-Marie Bagné. Elle l'accuse de profiter de la vulnérabilité de sa mère pour obtenir ses faveurs. C'est le début d'une affaire qui fera bientôt trembler bien plus qu'une famille, un scandale d'État, l'affaire Bettencourt. Mais pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, à ce nouveau chapitre familial, un chapitre qui verra la mère et la fille se déchirer pendant 3 ans, il faut déjà s'intéresser à l'histoire de la famille Bettencourt, ou plutôt à celle de la famille Schueller, celle de Liliane, et remonter aux origines d'une des plus grandes fortunes françaises. On est en 1909 à Paris. Un certain Eugène Schueller vient de fonder une société qu'il a appelée L'Oréal. Eugène est chimiste de formation, il est brillant, il est ambitieux. 2 ans plus tôt, il a mis au point les premières teintures capillaires de synthèse qu'il a baptisées Oréal. Rien ne le prédestinait à se lancer dans les produits cosmétiques. Les Schueller sont originaires d'Allemagne. Pendant la guerre franco-prusse de 1870, ils ont décidé de rejoindre Paris. Eugène naîtra dans l'arrière-boutique de la boulangerie de ses parents. Ses origines modestes ne le décourageront jamais de faire des études. Le travail est une vertu cardinale chez les Schueller. Et Eugène, tout en prenant sa part au magasin, sortira diplômé de l'Institut de chimie, avant d'assister quelque temps l'un de ses professeurs. Et là, voilà le tournant, un coiffeur vient un jour soumettre un problème de teinture à cheveux à l'équipe de chercheurs dont Eugène fait partie. « Qui veut s'en occuper après son travail ?» demande-t-il. Un seul lève la main, le jeune Schueller. La nuit, dans la cuisine de son 2 pièces, le bourreau de travail teste formule sur formule et il finit par découvrir un procédé. Une teinture de synthèse dont il déposera le brevet. Le commencement de l'histoire et le début de la fortune. En 1909, la légende d'Eugène Schueller est donc en marche. Il fonde L'Oréal et se marie à Louise, une musicienne dans l'âme que tout le monde appelle Betsy. Il faudra attendre encore une bonne 12aine d'années avant qu'un enfant ne voie le jour. En matière de famille, les choses prennent toujours du temps chez les Bettencourt. Pour l'instant, nous sommes encore au début du siècle, quand la Première Guerre mondiale éclate. Eugène se mobilise aussitôt, et pendant que lui se bat courageusement à Verdun et au Chemin des Dames, il confie les rênes de son entreprise naissante à Betsy, sa femme. À son retour, une excellente surprise l'attend. Son affaire a explosé. En fait, pendant le conflit, les femmes ont remplacé les hommes, partis au combat. Elles ont raccourci leurs cheveux, à la manière de Coco Chanel, la nouvelle coqueluche de la mode parisienne. Les teintures, longtemps mal vues, sont désormais en plein boom. Les produits L'Oréal s'exportent même à l'étranger. Schueller ouvre des bureaux à Londres et à New York. Il profite à fond de cette émancipation des femmes. Il n'en demeurera pas moins, toute sa vie, un machiste borné. Eugène travaille 16 heures par jour quand en 1922, Betsy lui donne enfin une enfant. Liliane, une fille, donc son unique descendant. Pour autant, jamais Eugène ne pensera à elle pour lui succéder à la tête de l'entreprise. Ce qu'il pense, lui, c'est qu'un jour, la place de Liliane sera la même que celle de Betsy au foyer. Eugène, qui consacre tout son temps à L'Oréal, n'accorde pas beaucoup d'attention à son unique héritière. Liliane n'a que 5 ans quand sa mère meurt soudainement des suites d'un abcès au foie. En pleine nuit, on est venu me chercher et j'ai vu mon père à genoux au pied du lit de ma mère, racontera-t-elle en évoquant le souvenir de cette maman qui jouait du piano et qui chantait. Quand elle est morte, il n'y a plus eu de musique dans la maison. La petite fille a beau être orpheline de sa mère, son père ne s'en occupe pas plus. Les journées d'Eugène restent entièrement dédiées à l'entreprise. Il n'a pas le temps de cocooner. C'est une nurse anglaise, Nita, qui s'occupera de Liliane en attendant d'être envoyée chez les religieuses. Elle dira « Ma mère me manquait terriblement, comme un creux qu'on ne peut pas remplir. » Quant à son père, elle ne cessera jamais de l'idéaliser. Même quand il se remariera. Eugène n'ira d'ailleurs pas chercher bien loin, car en 1932, le voilà qui épouse Nita, la gouvernante de la fillette. Ce sera un nouveau choc affectif pour la petite Liliane. Elle n'évoquera d'ailleurs que très rarement cette belle-mère qui avait pris pour elle le peu d'amour disponible d'Eugène. Dans ses années d'entre-deux-guerres, l'entrepreneur Schweller, lui, a la tête ailleurs. Il se dédie corps et âme à L'Oréal, toujours. Après La Beauté des Femmes, le voilà qui s'attaque à l'hygiène des Français en rachetant Monsavon. Puis, en mettant au point un fameux shampoing, le shampoing Dop, qui atterrira bientôt dans tous les foyers. Et en 1936, alors que le Front populaire vient de voter les premiers congés payés, il vend au nouveau vacancier qui se rue sur les plages sa dernière invention, la crème solaire. De quoi leur éviter les coups de soleil et remplir encore un peu plus les poches d'Eugène Schweller. Avec un sens des affaires sans égal, vous l'avez compris, il a réussi à transformer L'Oréal en un véritable empire. Et voilà que la Seconde Guerre mondiale éclate. On est en 1941. Les troupes nazies ont fait leur entrée dans Paris un an avant. Les Français sont en plein dans la période trouble de l'occupation. De son côté, Eugène Schweller, qui craint davantage le communisme que l'Allemagne d'Hitler, voit cette situation comme un moindre mal. Le patron de L'Oréal aime l'ordre et il ne croit qu'à l'autorité d'un chef. Et surtout, il ne jure que par les affaires. Et en matière d'affaires, il vante même le dynamisme d'un Hitler qui pousse tout le monde. Sauf que le chef d'entreprise, économiste à ses heures perdues, a des envies de politique. Et il a rapidement épousé les idées fascistes qui viennent de l'Italie et de Berlin. Depuis 1936, il s'est même lié d'amitié avec un certain Eugène Deloncle, un intellectuel d'extrême droite, ainsi que son bras droit, Jacques Corrèze. Les deux hommes ont créé un groupuscule terroriste, la Cagoule. Avant-guerre, on leur doit quelques assassinats politiques et un attentat à la bombe. Des actions que le patron de L'Oréal est suspecté d'avoir financées. En cette année 1941, celui qui se dit favorable à une révolution d'épuration prononce donc des discours devant la fine fleur de la France collaborationniste, ce qui trouve Pétain trop mou et érige l'Allemagne nazie en modèle. L'essentiel, pour nous, dit-il, c'est la rupture complète et définitive avec un passé récent, avec les méthodes et les hommes de la Troisième République, avec la franc-maçonnerie et la juiverie. Avec de telles convictions, Eugène Schweller ne tarde pas à travailler main dans la main avec l'industrie allemande. L'Oréal multipliera son activité par 4 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut ajouter qu'Eugène est également dirigeant des peintures Valentine que les Allemands achètent à tour de bras pour recouvrir leurs engins de guerre. À la Libération, en 1946, le patron de L'Oréal sera dans un premier temps condamné pour collaborationnisme avant que, contre toute attente, des témoignages et des courriers viennent attester du contraire et achèvent même de le blanchir définitivement. Si on les croit, ces courriers, ces témoignages, la collaboration du magnat des cosmétiques n'aurait été en fait qu'une couverture pour dissimuler sa véritable activité de résistant. Et un certain André Bettencourt fait partie de ceux qui défendront toujours farouchement l'authentique patriote Eugène Schueller. Mais comment se sont-ils rencontrés, ces deux-là ? André Bettencourt et Eugène Schueller se connaissent en fait depuis 1938. Ils ont fait connaissance autour d'un déjeuner. Le jeune Bettencourt, étudiant en droit, qui vient de s'inscrire à Sciences Po, partage des convictions proches de celles du patron de L'Oréal. Lorsqu'André arrive chez Eugène, sa fille Liliane, 16 ans, est là, elle aussi. Mais avant tout, c'est pour le père que ce catholique fervent, qui descend d'une vieille famille de la bourgeoisie normande, a un coup de foudre. Il remarque à peine Liliane, jeune fille timide. Ce n'est que quelques temps plus tard, lors d'une autre de ses visites chez Eugène Schueller, qu'il s'intéressera à la jeune Liliane. À l'époque, André compte parmi ses amis les plus proches deux étudiants ambitieux rencontrés dans une pension de la rue Vaugirard, François Dalle et un dénommé François Mitterrand. Tous les trois sont promis à un avenir brillant. L'un deviendra patron de L'Oréal, l'autre, vous le savez, président de la République. Quant à André, il finira par épouser Liliane, même si pour cela, il faudra encore attendre 1950, soit 12 ans après leur première rencontre. Car la fille unique d'Eugène Schueller, et héritière de L'Oréal, n'est pas vraiment pressée de se faire passer la bague au doigt. C'est presque à reculons qu'elle se laissera conduire devant le maire à l'âge de 28 ans, tard pour l'époque. Au moment de choisir son alliance, elle dira même à son futur mari de ne pas prendre la bague trop serrée. Liliane, comme André, tient à garder une certaine indépendance. Leur fille Françoise verra le jour en juillet 1953. À sa naissance, Liliane contracte une tuberculose qui la tiendra éloignée un moment de son bébé et lui coûtera une grande partie de son audition. Des séquelles éprouvantes pour la jeune femme, et Liliane ne saura jamais vraiment comment s'y prendre avec sa petite. Elle qui, je le rappelle, a été privée de sa mère très tôt. Le couple, André-Liliane, n'aura jamais d'autres enfants et fera rapidement chambre à part. Françoise Bettencourt grandit dans une cage dorée, avec des habitudes hors normes. C'est ce que raconte Raphaël Baquet dans son livre Succession. Par exemple, c'est un chauffeur qui l'emmène à l'école. Comme sa grand-mère, la trop vite disparue Betsy, Françoise a des prédispositions pour le piano. On embauche la virtuose Yvonne Lefébure pour lui donner des cours. Elle joue 3 heures par jour, souvent avec son amie d'enfance, la chanteuse et comédienne Arielle Dombal. Et quand elle n'est pas à l'école, la petite Françoise voyage beaucoup avec ses parents. Car après la mort d'Eugène Schueller en 1957, le couple Bettencourt est de plus en plus sollicité pour L'Oréal. Liliane est désormais la propriétaire de l'Empire, même si elle ne dirigera jamais l'entreprise. Son rôle, tel que défini par son père, est celle de la gardienne du temple. C'est François Dalle, le grand ami d'André, on l'a dit, qui a été choisi par Eugène pour lui succéder. André, justement, qui est entré au cabinet de Pierre Mendès France par l'entremise de son autre compère Mitterrand, consacre la majeure partie de son temps à la politique. Entre 66 et 73, André sera de tous les gouvernements. Cette même année, 1973, c'est en tant que ministre des Affaires étrangères qu'il se rend avec Liliane en Chine pour rencontrer le président Mao. À cette époque, Françoise Bettencourt, elle, a tout juste 20 ans. Elle est plutôt timide et elle non plus n'est pas appelée à diriger un jour l'entreprise familiale. Mais c'est pourtant lors d'une soirée organisée par ses parents avec les cadres de L'Oréal qu'elle rencontre son futur époux. Jean-Pierre Meyers est le fils d'un membre de la direction. Comme bon nombre de ses camarades de la jeunesse dorée parisienne, il partage lui aussi son temps entre le 16e arrondissement de Paris et Megève l'hiver. Derrière ce jeune homme plein de charme, lui aussi très discret, se cache un lourd héritage familial. Jean-Pierre descend d'une grande famille de rabbins. Son grand-père, Robert Meyers, déporté et assassiné à Auschwitz en 1943, est considéré comme un héros de guerre. La petite fille d'Eugène Schueller, au passé collaborationniste, avec le petit-fils d'un martyr de la Shoah, autant dire que les familles des deux jeunes gens ne sont a priori pas très emballées par cette idylle. Mais qu'importe, Françoise impose Jean-Pierre à ses parents. Les deux jeunes se marient en 1984, un simple mariage civil, là encore, après avoir attendu 12 ans. Françoise sait parfaitement bien que son nom et sa fortune suscitent les convoitises. Et la jeune femme tient à être certaine des sentiments désintéressés de Jean-Pierre à son égard, avant de lui offrir sa main. Le jeune couple emménage dans un duplex à quelques mètres de l'hôtel particulier de la rue de la Bordère, à Neuilly. Ils auront deux garçons, Jean-Victor, en 86, et Nicolas, en 88. Les Bettencourt, parents, et les Meyers se voient tout le temps. Chaque dimanche, Françoise, son mari et leurs enfants déjeunent chez André et Liliane. L'hiver, les deux familles partent skier à Megève. Tout le monde part dans l'immense propriété des Baléares, ou en Bretagne, à l'Arquest. C'est d'ailleurs là, dans l'incroyable maison construite par Eugène Schweller en face de l'île de Bréa, que Françoise se fera, en juillet 1993, un avis définitif sur le nouvel ami de ses parents, un certain François-Marie Bagné. On est à l'été 1993. Comme chaque année, les Bettencourt passent une partie de la saison estivale ici, sur la pointe de l'Arquest, près de Paimpol. C'est une tradition familiale presque aussi vieille que L'Oréal. C'est ici que le patriarche Schweller venait passer le peu de vacances qu'il prenait pour faire du bateau sur son immense voilier. C'est là aussi justement, après une sortie en mer et un sacré coup de soleil, qu'il a eu l'idée de créer cette crème qui protège des rayons UV. Liliane n'a jamais fait d'infidélité à cette grande demeure. Elle n'a jamais non plus dérogé à la règle. Ici ne viennent que les plus proches. Être invité à l'Arquest est un privilège, celui réservé à une petite poignée d'intimes. On est donc un midi de l'été 93 et un silence de plomb s'est abattu sur la terrasse qui surplombe la baie. Autour de la table, on trouve Liliane et André, ainsi que Françoise, Jean-Pierre et leurs enfants, mais aussi François-Marie Bagné. Lui, ici, au milieu de ce sanctuaire familial, autant dire que l'héritière jette à l'artiste loufoque un regard noir. Et ce qu'elle voit, c'est un homme qui semble avoir pris le pouvoir sur ses parents. Liliane et Bagné se sont rencontrés 4 ans auparavant, lors d'une séance photo chez les Bettencourt. Ils ont eu un coup de foudre amical. François-Marie la bouscule un peu, l'amuse. En fait, il sort la septuagénaire de son ennui et d'une certaine routine. Le photographe débarque dans sa vie comme une bouffée d'air frais. Il lui apporte quelque chose que tout l'or du monde ne peut acheter, de la fantaisie. Désormais, Liliane ne jure plus que par les excentricités de ce trublion. Et elle lui passe tout. Ensemble, ils vont voir des expos, ils voyagent autour du monde. Bagné lui présente des artistes, des écrivains et les personnalités du moment. Toute une galerie de personnages et de rencontres qui passionnent la milliardaire. Bagné lui a redonné le goût de la vie. Alors quelque part, elle se sent redevable et se montre assez facilement généreuse avec son nouveau meilleur ami. À cette époque, elle commence à lui léguer des œuvres de Matisse, de Picasso ou de Braque. Des millions d'euros de dons. De quoi faire perdre la tête à n'importe qui. À la table de l'Arquest, Bagné, le provocateur qui ne manque ni de culot ni de mauvaise manière, est très familier avec André. Françoise fulmine. Mais quelle arrogance! Comment parle-t-il à son père, cet ancien ministre, lui qui se prétend écrivain, photographe? Lui qui a certes fréquenté Dali et Aragon, mais qui n'arrive pas à la cheville des André Malraux et Maria Callas que ses parents recevaient à Neuilly autrefois. Pour qui se prend-il ce pseudo-artiste pour s'incruster jusqu'à la table familiale de l'Arquest? Françoise se le jure là, à l'été 93. C'est la dernière fois qu'elle se retrouve en sa présence. 14 ans plus tard, ce 19 novembre 2007, c'est pourtant François-Marie Bagné qu'elle découvre en arrivant dans la chambre de son père décédé. 14 ans à subir les outrages de l'histrion Bagné, 14 ans à implorer sa mère de s'en débarrasser, alors qu'il ne cesse d'en demander toujours plus. 14 ans à fomenter sa revanche. Une revanche qu'elle peut désormais mettre en action, quitte pour cela à faire éclater au grand jour les secrets familiaux. L'année 2007 sera donc celle où le scandale éclate, celui de l'affaire Bettencourt, ou plutôt des affaires Bettencourt. Car Françoise Bettencourt-Meyers, en voulant se débarrasser du trop gourmand François-Marie Bagné, va ouvrir la boîte de Pandore et provoquer un raz-de-marée médiatique. le simple conflit familial, va se transformer en une véritable affaire d'État qui éclaboussera jusqu'au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Après la mort d'André Bettencourt, Françoise Meyers est alertée par le personnel de maison de ses parents des continuelles largesses de sa mère envers son grand ami Bagné. Des œuvres d'art, des chèques, mais aussi des biens immobiliers et des assurances-vie. Au total, entre 1997 et 2007, Liliane Bettencourt offrira à Bagné des cadeaux d'une valeur de 917 millions d'euros. 917 millions d'euros. Presque 1 milliard. Une somme folle devant laquelle on a du mal à ne pas penser que Liliane a été manipulée par son compagnon. Françoise Meyers lance donc une procédure judiciaire en ce sens pour abus de faiblesse contre Bagné et envisage de placer sa mère sous tutelle. Mais c'était sans compter sur l'action du majordome de Liliane Bettencourt elle-même. Ce dernier ne supporte plus de voir Madame se faire abuser par des gens sans scrupules. Il veut apporter sa pierre à l'édifice et décide d'enregistrer clandestinement, et ce pendant plus d'un an, les conversations de sa patronne. Et ce que ces enregistrements révèlent va faire déborder l'affaire Bettencourt bien au-delà du conflit familial. Car le photographe est loin d'être le seul à bénéficier des faveurs de la femme la plus riche de France. Nombreux sont ceux à défiler dans son bureau pour obtenir un petit quelque chose qui prend le plus souvent la forme d'une enveloppe pleine de cash, une pratique déjà très courante du temps d'Eugène Schueller, et que Liliane a simplement fait perdurer. Le 16 juin 2010, l'affaire prend une tournure politico-financière quand le site Mediapart met en ligne ces fameux enregistrements du majordome. On y évoque notamment une douzaine de comptes cachés en Suisse. Mais aussi, il s'avère que des liens privilégiés se seraient tissés entre le gestionnaire de fortune de la milliardaire, Patrice Demestre, et le ministre du budget de l'époque, Éric Woerth. De possibles conflits d'intérêts sont évoqués. C'est alors que, nouveau rebondissement, l'ex-comptable de la milliardaire entre en jeu. Elle prétend que Liliane Bettencourt a donné de l'argent à ce même Éric Woerth en 2007, alors qu'il était le trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. L'affaire Bettencourt fait alors trembler la République.
RTL Matin, Vincent Parisot.
Et évidemment, Marion, on commence ce journal par ces accusations extrêmement graves et très précises de l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt.
Elle raconte sur le site internet Mediapart comment sa patronne aurait financé régulièrement des personnalités de la droite française, dont Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle de 2007.
Évasion fiscale, financement illégal d'une campagne, ça part dans tous les sens. La justice française mettra 10 ans à se prononcer. Nicolas Sarkozy bénéficiera finalement d'un non-lieu. Éric Woerth, lui aussi, sera relaxé. L'affaire Bettencourt laissera néanmoins une tache indélébile sur la vie politique française. En 2016, François-Marie Bagné, de son côté, sera en effet condamné en appel pour abus de faiblesse. Il écopera de 4 ans de prison avec sursis et de 375 000 euros d'amende. Je rappelle qu'il avait reçu près d'un milliard d'euros de cadeaux de son amie Liliane. Mais ce qui importe surtout à Françoise Bettencourt Meyers, c'est qu'elle aura finalement obtenu gain de cause. En 2010 déjà, la fille discrète avait fait la paix avec sa mère. À l'abri des regards, son bras de fer avec Liliane avait lui aussi fini par payer. Car avant de mourir en septembre 2017, à l'âge de 94 ans, la milliardaire avait finalement concédé à sa mise sous tutelle. Françoise Bettencourt Meyers, la nouvelle héritière de L'Oréal, aura gagné sur tous les tableaux. Preuve qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer cette femme de l'ombre et son clan. C'est l'erreur qu'aura longtemps faite les Bettencourt. Force est de constater que les Meyers n'auront pas attendu 2017 et la disparition de Liliane Bettencourt pour laisser leur empreinte sur L'Oréal et la dynastie familiale. Même si pour le comprendre, il faut faire un nouveau saut dans le temps, au début des années 90. La journaliste Raphaël Baquet, qui sera là dans un instant, dans son livre Succession, raconte cet autre duel familial qui oppose cette fois André Bettencourt et son gendre, Jean-Pierre Meyers. On vous explique.
À l'époque, dans la presse, on parle de l'affaire Friedman. Car Jean Friedman est le businessman franco-israélien par qui le scandale arrive. Cet ancien résistant et survivant de la Shoah va faire des révélations fracassantes sur L'Oréal et le passé trouble de ses dirigeants. Nous sommes en 1989 et le rôle d'Eugène Schueller pendant la guerre, sa proximité avec la cagoule dont on parlait tout à l'heure, tout cela n'est connu que d'une poignée d'initiés. Sauf que l'homme d'affaires Friedman accuse publiquement l'empire des cosmétiques d'héberger, depuis la fin des années 40, d'anciens collaborateurs, et notamment Jacques Corrèze, on en parlait aussi. Il a été condamné après la guerre et embauché à sa sortie de prison par L'Oréal. D'après Friedman, Corrèze ne serait pas un cas isolé. Mais ces révélations ne s'arrêtent pas là, car au-delà du groupe, c'est aussi André Bettencourt lui-même qui est visé. L'ancien ministre, proche du fondateur, époux de sa fille, siège à la vice-présidence de L'Oréal quand son passé antisémite ressurgit. En 1941, le jeune André Bettencourt, très attaché à sa foi catholique, écrivait dans la Terre française un hebdomadaire collaborationniste. Les lignes suivantes. Les juifs, les pharisiens hypocrites n'espèrent plus. Pour eux, l'affaire est terminée. Ils n'ont pas la foi. Ils ne portent pas en eux la possibilité d'un redressement. Pour l'éternité, leur race est souillée par le sang du juste. Ils seront maudits de tous. Le père de Françoise Bettencourt-Meyers a beau plaider l'erreur de jeunesse. Son gendre, Jean-Pierre, qui est membre du conseil d'administration de la firme, se retrouve devant un cas de conscience. Doit-il fermer les yeux devant cet héritage familial accablant? Doit-il au contraire, au nom des siens morts dans les camps nazis, taper du poing sur la table? En 1994, l'affaire est tranchée. Jean-Pierre Meyers obtient le départ de Jacques Corrèze et d'André Bettencourt du groupe. Par ce coup de force, cet homme que l'on dit volontiers effacé assoit son influence à la fois dans la famille et au sein de L'Oréal. L'humiliation sera terrible pour André Bettencourt, qui comprend à ce moment-là que l'ère Meyers sur la destinée familiale ne fait que commencer. Revenons en 2024. On est 30 ans après l'éviction d'André Bettencourt de L'Oréal, 7 ans après la mort de Liliane. Le destin des Schueller, des Bettencourt, intrinsèquement lié à celui de L'Oréal depuis plus d'un siècle, est entré dans une nouvelle ère. Une nouvelle génération, la quatrième, est désormais aux commandes. Au fil des années, ce sont les fils Meyers, Jean-Victor et Nicolas, qui sont devenus les nouveaux gardiens du temple. Et cette transition semble déjà avoir porté ses fruits. La fortune familiale aura ainsi presque triplé depuis la disparition de Liliane Bettencourt. 100 milliards d'euros en 2024 contre 35 en 2017. Avant d'entrer au conseil d'administration de L'Oréal, les fils Meyers, eux aussi, ont fait leur classe en visitant les points de vente à travers le monde. Leur mère ne leur a pas forcé la main, mais la force du destin est parfois plus forte que les aspirations personnelles. Le leur de destin sera sans nul doute de continuer l'œuvre de leur arrière-grand-père, Eugène Schueller. Un génie visionnaire, avec une extraordinaire force de travail. Au-delà de la fortune hors du commun qu'ils reçoivent, il y a aussi un héritage familial lourd à porter. La nouvelle génération de la dynastie des Bettencourt aura la charge de continuer de faire fructifier l'empire des cosmétiques, mais aussi une mission plus personnelle, celle de se réconcilier avec son passé. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel, la saga Bettencourt. Un numéro fait en équipe avec Dany Matouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la programmation et à la production. Je vous rappelle que tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles à tout moment sur rtl.fr ou sur l'appli RTL.